Parole d'auteur. Parole d'auteur, Jeanne Vidot.
Ah, l'Italie du Nord, les Grands Lacs, les Dolomites. Cette Italie que l'on parcourt en touriste, que l'on traverse maintenant de part en part pour visiter la Croatie, la Slovénie ou le Monténégro. Mais sait-on combien notre région occitane lui doit à cette voisine si bien intégrée à l'Europe ? Évoquons aujourd'hui avec Alain Monnier l'immigration italienne dans la France rurale des années 20 et suivantes, à travers la vie de deux, voire trois générations d'une famille que les vicissitudes historiques amènent dans le Gers. On ne vous présente plus Alain Monnier, surtout ici en Occitanie. En effet, vous êtes l'auteur de plus de 20 ouvrages maintenant, de genres et de styles très divers. On peut parler en particulier des récits, des aventures de votre héros et récurrent, le premier, je crois.
Parpo, oui.
Oui, Barthélémy Parpo, sorte de Forrest Gump toulousain.
Tout à fait.
Qui, sous des dehors naïfs, nous confronte aux absurdités du quotidien et à l'hypocrisie des conventions, mais aussi Notre Seconde Vie, qui est un roman d'anticipation sur le monde virtuel, qui prend une forme d'actualité avec l'intelligence artificielle.
Oui, c'était un livre qui était en 2006, je crois,
ouais,
et c'était
ça,
les prémices de tout ce qu'on est en train de voir.
Vivre maintenant. Et puis d'autres œuvres plus sombres, telles que Je vous raconterai, ou Les ombres d'Anna. Mais d'autres terres que les nôtres et d'autres espérances que vous avez publiées ces derniers temps chez Privat sont vos premières expériences de romans historiques, je crois. Vous êtes venu à ce sujet un peu par hasard et beaucoup par amitié, me semble-t-il.
Oui, effectivement. Alors, hasard et amitié. D'abord, amitié peut-être parce que j'ai deux amis très très proches qui ont vécu, dont les grands-parents ont vécu cette émigration italienne dans le sud-ouest. Puisque leurs familles, comme des dizaines de milliers d'autres, sont partis de Vénétie ou du Frioul pour venir reprendre des terres qui se refermaient après la Première Guerre dans le sud-ouest. Et donc il y a eu cette immigration très très importante, et dans le Gers, dans le Tarn-et-Garonne, l'Haute-et-Garonne, mais aussi en Haute-Garonne. Voilà, donc ces amis m'ont raconté des anecdotes, puisque finalement après le roman c'est de tricoter des anecdotes aussi, des choses du vécu. Et puis parallèlement à ça, beaucoup de lectures et des livres qui m'ont beaucoup touché, beaucoup intéressé. Et voilà, et c'est le mix des deux qui fait que je me suis lancé dans ces romans historiques. Et la troisième raison aussi, c'est parce que j'avais du temps, alors que pendant de nombreuses années où je travaillais, j'avais juste le temps d'écrire, mais pas le temps de lire et d'écrire.
C'est ça, c'est vrai que un roman historique demande un gros travail préparatoire.
Voilà, et a beaucoup plus d'exigences. Et puis souvent, vous lisez un livre qui vous intéresse et puis ça ouvre une porte, vous en lisez un autre et c'est sans fin, parce qu'il y a toujours un point à creuser. Et c'est en même temps, c'est très intéressant à pratiquer.
Et c'est vrai qu'on ne se rendait pas forcément compte de l'importance de cette immigration italienne dans cette région, parce que effectivement, sur Toulouse, il y a eu la place extrêmement brutale, importante de la retirada espagnole.
Tout à fait, oui.
Qui a un petit peu occulté ce mouvement de fond qui était celui de l'immigration italienne.
Alors, l'immigration italienne est avant tout une immigration pour raison économique, du fait du manque de terres en Vénétie, du fait de la pauvreté qui fait que les offres qui ont été faites pour venir dans le sud-ouest étaient intéressantes. Par exemple, la terre coûtait 4 fois moins cher dans le un hectare coûtait 4 fois moins cher dans le Gers qu'en Vénétie. Donc un petit propriétaire vénète qui avait 2 hectares pouvait en les vendant s'acheter 8 hectares dans le Gers. C'est des petits exemples, mais qui a contribué à cette immigration. Après, vous évoquiez la retirada. Bon, la retirada, c'est 450 000 personnes qui arrivent en quelques semaines.
Jours, oui.
C'est-à-dire, c'est à peu près la population et de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et donc, on imagine le choc énorme que ça a été sur les populations qui fait que c'est resté dans les esprits. Alors que cette immigration italienne qui s'est faite beaucoup plus discrète, par exemple, dans le Gers, il y avait trois, quatre fermiers italiens en 1921. Et ils étaient 2000 en 26. Voilà, donc c'est aussi... Mais ça a été beaucoup plus discret. Et in fine, quand même, l'immigration italienne en nombre est beaucoup plus importante que l'immigration espagnole.
Tout à
mais,
fait.
Même si aujourd'hui, effectivement, quand on parle de Toulouse, on pense à l'immigration espagnole.
Je pense que Toulouse est une ville vraiment entre les deux. C'est vraiment entre l'Espagne et l'Italie. L'Italie est un peu plus loin géographiquement, mais en même temps, il y a quand même des liens très proches.
C'est vrai aussi que souvent, quand je sortais un livre, je fais, je sais pas, 5, 6, 7 rencontres, salons, librairies. Et il se trouve que pour ces deux livres qui parlent de l'immigration italienne, je crois que pour le premier, j'ai fait une cinquantaine de rencontres.
Ah,
parce
oui.
qu'il y a partout des associations italiennes, alors de descendants. Hein, c'est donc les petits-fils, enfin, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants des premiers arrivants. Mais partout, autour de Toulouse, il y en a deux à Muret, à Haute-Rive, à Marmande, à Mont-de-Marsan, enfin, partout, soit des associations, soit des comités de jumelage.
Oui, c'est ce que vous indiquez d'ailleurs à la fin de votre ouvrage. Vous faites une
voilà,
liste dans les remerciements.
Voilà, je rends hommage un petit peu à toutes ces associations. Oui.
Et ces personnes d'ailleurs ont dû vous raconter aussi des anecdotes.
Voilà, donc quand je fais des rencontres, je parle à peu près la moitié du temps. Et l'autre moitié, c'est ces personnes qui me racontent des choses tout à fait souvent extraordinaires de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et des choses assez bouleversantes souvent. L'autre jour à Muret, il y a une dame qui me disait que sa grand-mère était ouvrière agricole dans la journée et le soir, elle allait aider son mari qui était maçon à monter des briques dans les étages. Donc, c'est une femme qui devait travailler de 7 heures jusqu'à minuit. Enfin, je veux dire, c'est des vies de travail et de courage.
Oui, de courage quotidien et humble,
oui,
finalement.
Voilà, et qui sont, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont quand même assez fascinantes.
C'est vrai. Et donc, revenons peut-être à votre roman lui-même, puisque donc, nous suivons une famille qui part de Vénétie.
Voilà. En fait, c'est une famille qui va partir pour reprendre un métayage avec un contrat dans le Gers. Et cette famille, c'est surtout deux femmes qui la portent. Ce sont deux sœurs, une qui est une jeune veuve et l'autre sa sœur. Et ce sont ces deux femmes qui, en fait, sont les vraies héroïnes du roman.
Tout à fait.
D'une part, parce que c'est elle qui porte, alors les hommes décident bien sûr, mais c'est elle qui porte quand même les décisions, c'est elle qui font tourner la maison, qui font à manger, qui élèvent les enfants et qui ont une vie de labeur très très dure et qui bon bien sûr après on est dans un roman qui vont avoir des péripéties romanesques.
Elles partent effectivement pour des raisons économiques, mais pas uniquement économiques.
Voilà, donc,
il y a quand même tout un contexte que vous mettez bien en avant, qui est celui des débuts du fascisme, en fait, de toute la partie où Mussolini commence à asseoir son pouvoir et l'asseoir par la violence.
Par des groupuscules très violents qui s'en prennent d'abord aux syndicalistes, à la presse, mais aussi petit à petit dans les campagnes, à faire régner une sorte de terreur. Et donc, pour ce qui est de cette famille, donc, ils hésitent beaucoup. C'est quand même au départ la question économique, en se disant on vivra mieux en France qu'ici. Enfin voilà, ils s'interrogent, ils hésitent. Et puis il y aura un événement violent des squadristes fascistes qui fait que, suite à un décès, le détail, enfin c'est pas un détail, mais qui les pousse à partir.
Oui, ça va précipiter leur départ.
Qui précipite exactement le départ.
Mm-hmm, oui. Tout à fait. Sachant qu'à l'époque, ce départ est irréversible, ou leur paraît irréversible.
Oui, puis ils partent vraiment pour s'enraciner. Et c'est vrai, dans tous les témoignages que j'ai eus, il y a une volonté d'être dans ce nouveau pays, d'être des vrais acteurs de ce nouveau pays. Ils pensent que c'est par le travail qu'ils vont s'en sortir. Et il y a plein de détails symboliques. Par exemple, mon ami me racontait que quand ils sont arrivés en France, sa mère l'a pris à un moment donné, elle lui a montré le drapeau et elle lui a dit « Avant, c'était vert, blanc, rouge. Aujourd'hui, ton drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. » Donc, c'est des choses symboliques, mais très, très fortes. Et ils venaient pour rester. Et c'est même pour ça que les propriétaires terriens qui avaient les fermes qui se refermaient sont allés chercher ces familles en Italie pour qu'elles s'enracinent, alors qu'il y avait des Espagnols qui souvent n'arrêtaient pas de faire l'aller-retour, ils restaient 6 mois, puis ils repartaient de l'autre côté des Pyrénées. Et ça n'arrangeait pas les propriétaires. Et c'est pour ça qu'ils sont allés vraiment, ils se sont organisés pour faire venir ces Italiens dans notre sud-ouest.
Oui, il y avait quelque part, des deux côtés, il y avait un amour de la terre finalement.
Il y avait voilà, tout le monde devait être gagnant-gagnant, comme on dit aujourd'hui, sauf que bien sûr il y a toujours les déceptions.
C'est pas si facile, oui,
l'arrivée n'est pas facile. Ces familles italiennes, d'une part, trouvent des conditions, ça le savait un peu, des fermes en très mauvais état, il faudra 1, 2, 3 ans pour les remettre vraiment en fonctionnement. Et il y a aussi la déception, alors ça je l'ai lu dans de nombreux témoignages d'époque, où ces Italiens en partant, la France était un pays de la République, des droits de l'homme, l'Empire français, etc. Imaginez un pays beaucoup plus évolué, et quand ils arrivent, il y a un détail qui les choque, c'est qu'ils trouvent des fermes en mauvais état, mais le sol est en terre battue. Alors qu'ils ont laissé des habitats avec un sol beaucoup mieux fait, enfin des
parquets, des
briques, voilà. Et ça les choque profondément, à tel point que dans 4 ou 5 témoignages, c'est le premier truc qui ressort, une sorte de déception. Alors après, je crois que dans toute émigration, on leur a vendu quelque chose de peut-être un peu plus beau que la réalité, et eux-mêmes, en tant que migrants, ont imaginé quelque chose de plus merveilleux, voilà, et c'est toujours un peu cette balance entre des petits mensonges ou des petites espérances.
Oui, mais après, il y a aussi le mode de vie qui les... Alors, il y a une phase qui est très intéressante et très chaleureuse dans votre ouvrage, c'est finalement l'accueil généreux qui leur est offert compense en partie les difficultés de la climatisation.
Oui, alors après, il y a plein d'histoires avec toujours pareil, des choses très belles, des choses un peu moins belles, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une solidarité. On voit arriver ces pauvres gens démunis, donc il y a quand même des Italiens déjà installés, il y a une forme de solidarité. Il y a des solidarités, et ça je l'ai repris, avec des Français qui vont donner des tablettes de chocolat. Enfin voilà, il y a quand même, on voit ces petits, donc on les aide. Le propriétaire lui-même a intérêt que cette famille reste et s'enracine. Et donc,
sûr,
va souvent prêter une vache pendant un an pour qu'ils aient du lait. Et il va donner les premières semences pour la première année. Voilà, c'est intéressé. Hein. Mais ça existe aussi. Et ça aide quand même cette première année qui est vraiment très, très difficile pour eux.
C'est un intérêt bien compris.
Voilà.
Mais qui fait plaisir quand même.
Oui, oui, oui. Oui.
Puisque on le voit dans la suite de votre roman, finalement, le propriétaire est un peu filou. Mais en même temps, Amélia, donc l'une des héroïnes, constate que sur la trentaine d'années avec lesquelles ils ont fonctionné, ils étaient en bonne intelligence,
oui,
finalement.
Oui, tout à fait. Oui, oui,
il n'a pas essayé plus que ça de les escroquer.
Tout à fait. Alors, après, si on reprend à la loupe ce qui s'est passé, il y a de belles histoires et il y a de moins bonnes. Voilà, bon, c'est toujours... typiquement, donc, quand même, cette intégration de ces Italiens va se faire par trois choses. La langue d'abord, parce que entre l'italien, le français, l'occitan et le dialecte, on est dans des langues romanes. Puis il y a la religion, parce qu'ils se retrouvent tous dans la même église le week-end.
Oui.
Et l'école qui joue son rôle. Et c'est pour ça, au sujet de l'école, vous m'y faites penser, c'est que dans toutes les réunions, souvent, il y a quelqu'un devant qui va me dire « Ah, ma grand-mère a eu une institutrice fabuleuse grâce à elle, en 3 mois, elle parlait français, etc. etc. » Et puis vous avez un monsieur au fond qui va vous dire « Ah, mais moi, mon grand-père, il était avec un instituteur qui n'aimait pas les Italiens, il l'a mis au fond de la classe. » Voilà,
oui,
c'est toute l'humanité avec...
Après, voilà. C'est vrai que l'école a joué un rôle très important.
Oui.
Et c'est ce que vous sous-entendez dans votre roman, Enfin, vous insistez quand même, je dis sous-entendre, non, vous insistez à plusieurs reprises là-dessus. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles l'autre personnage, l'autre sœur importante, Rina, souhaite émigrer. Parce qu'elle veut que ses enfants aient une éducation qu'elle ne peut pas leur offrir en Italie, où l'éducation n'est pas obligatoire, l'école laïque n'est pas obligatoire. Et on est obligé de passer par une école religieuse qui est forcément payante.
Tout à fait. Alors que là, c'est une époque où l'école a vraiment bien fonctionné avec ses instituteurs de la République qui
se sentaient
qui se sentaient une vraie mission. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, enfin, je veux dire, que ces enfants italiens, souvent, enfin, moi, ce que j'ai entendu dire, en 3 mois, parlaient parfaitement français, enfin, voilà, tout ça a bien fonctionné. Et c'est aussi, parce que ces deux livres, c'est l'histoire de l'intégration sur 3 générations, finalement, de ces Italiens dans la société française. Et l'école a joué son rôle, puisque une des héroïnes, la fille
finira institutrice,
oui. Avec cette phrase que j'ai reprise, et c'est une vraie phrase qu'une dame m'a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va être institutrice, et sa tante italienne lui dit, toi, une petite italienne, tu vas apprendre le français aux petits français. Et je crois que ça dit tout, ça, enfin, de l'émerveillement de...
Oui, de la fierté légitime.
Tout à fait.
Et puis du lien très fort qui s'est créé entre les deux communautés, finalement. Mais bon, effectivement, les premières années, c'est aussi des années un petit peu quelque part un deuil. De tout un mode de vie, de la famille qu'on a laissée là-bas.
D'une façon de vivre.
Enfin,
c'est terrible. Et ça, c'est vrai pour toute immigration, enfin, tout migrant.
Mais
Il rencontre, puisqu'on est dans les années 30, il rencontre quand même, outre ces fermes qui sont en mauvais état, il rencontre la crise de 29, où le cours des céréales va chuter de 50% en 31. Ils sont aussi pris, c'est l'époque donc, où l'Italie, le fascisme est monté, et où ces gens, même en étant en France, sont un petit peu... pris dans un étau avec d'un côté les fascistes qui sont représentés par les consuls, les Casa d'Italia, enfin par pas mal de structures qui essaient de les garder dans le giron de la mère patrie. Par exemple, on a le consul du Gers qui va offrir 300 francs à tous les hommes italiens qui s'engagent à revenir en Italie en cas de guerre.
Ouais, donc, oui.
Et face à ça, vous avez les antifascistes italiens qui se sont réfugiés en France pour fuir
Mussolini,
et qui, eux, n'ont de cesse, ils vont faire beaucoup de journaux en italien, et n'ont de cesse de prêcher, intégrez-vous à la France, qui reste le pays des droits de l'homme, des libertés, tout ça. Ils vont essayer de faire des coopératives, ils vont honorer les monuments aux morts de la Première Guerre en même temps que les Français, enfin voilà. Et eux sont quand même pris, alors, pas au jour le jour, bien sûr, mais ils sont quand même pris entre deux échos, comme un peu tiraillés entre deux idées, quoi. Alors que ces familles italiennes, souvent, ne veulent qu'une chose, c'est rester en dehors de toutes ces questions politiques, d'arriver à vivre et que leurs enfants vivent mieux.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une société aussi, ils ont laissé derrière eux une société où il y avait plus de rire, plus de chant. Et donc... c'est comme ça qu'on va peut-être introduire notre premier choix musical, Quel Mazzolin di Fiori, qui est donc un chant traditionnel qui était chanté dans le Frioul.
Vous m'avez proposé de choisir un élément. C'est parce que mes amis italiens me disent, toutes les familles chantaient ça. Voilà, donc moi, je fais que répéter.
Quel Mazzolin di Fiori. Dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. E vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare,
lo voglio regalare. brutta sera. La sera quando viene sarà una brutta sera. Ed è perché sabato sera lui non è venuto da me. Ed è perché sabato sera lui non è venuto da me. Mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, ma da ben che non si bagna che lo voglio regalar, 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 regalar. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, ma da ben che non si bagna che lo voglio regalare, ma da ben che non si bagna che lo voglio regalare.
Parole d'auteur.
Nous retrouvons Alain Monnier autour de ces deux livres qui traitent de l'immigration italienne dans le Gers, D'autres terres que les nôtres et D'autres espérances, édités chez Privat. Donc nous discutions un petit peu tout à l'heure avec vous, Alain Monnier, de la manière dont la politique a impacté différemment à la fois la France et l'Italie,
oui.
Et de quelle manière ça a pu toucher de près les familles émigrées, même si elles voulaient a priori rester en dehors de la politique. Elles ont quand même été
confrontées. Et elles vont y être d'autant plus confrontées qu'on approche de la guerre. Alors il y a d'abord ce qu'on a appelé la drôle de guerre, où ce qui se passe, c'est que les Français, les hommes français sont appelés dans les casernes, même si la vraie guerre ne commencera qu'un an plus tard. Mais surtout, du coup, les Italiens, puisqu'ils sont Italiens, restent dans les fermes à travailler. Et on imagine assez facilement l'aigreur et le ressentiment que cela génère autour d'eux. Puisque, il faut comprendre aussi, ce sont des gens, le monde agricole est fait pour collaborer. Donc ce sont des gens qui sont là depuis 20 ans, qui travaillent ensemble pour les moissons, pour les coups durs, etc. Et d'un coup, il y a ceux qui partent. Et ceux qui restent. Donc ça crée des tensions entre communautés. Alors la presse, heureusement à cette époque, est plutôt apaisante en disant mais n'oubliez pas que les Italiens sont venus, ont sauvé nos terres, etc. Mais il y a de vraies tensions et ça va empirer en juin 40 quand Mussolini déclare la guerre à la France. La France qui est déjà totalement en débâcle, qui est perdu, et donc c'est la fameuse phrase, le coup de poignard dans le dos de nommataire de l'ambassadeur de France à Rome, et là les Italiens deviennent ipso facto des ennemis de la France, et là il y a des troubles beaucoup plus graves. Il y a les magasins italiens à Toulouse sont pillés, il y a des émeutes violentes à Marmande, enfin voilà, partout il y a une réaction assez violente. Et après, ces Italiens vont faire, ça va s'apaiser aussi, vont faire comme tout le monde, vont faire le dos rond et attendre que ça passe, quoi.
Et donc, effectivement, ils attendent que ça passe. Il est plus facile d'attendre que ça passe dans le Gers qu'en Italie.
Oui,
et alors... à la suite, c'est ce qu'on va voir, donc, à la fin de la guerre, où la France se remet lentement, mais quand même de manière beaucoup plus progressive et dynamique que l'Italie, qui est confrontée à une guerre civile, en fait.
C'est-à-dire que l'Italie, donc, quand les Alliés débarquent dans le sud de l'Italie en 43, il y a une sorte de scission qui se fait avec, d'une part, Mussolini, qui a été ramené en Italie et qui crée la République de Salo dans le nord de l'Italie. Et donc, on va de fait avoir comme une guerre civile pendant 2 ans, de 43 à 45, entre les partisans de Mussolini et puis les partisans de gauche, que ce soit les anarchistes, les communistes, etc. Et là, c'est deux factions qui vont... on est dans un vrai schéma de guerre civile. Et du coup, c'est sûr que il me semble que l'Italie vit quelque chose de beaucoup plus rude que ce qui s'est passé en France, même s'il y a eu les privations de la guerre, s'il y a eu l'occupation allemande, etc. Mais là, c'est entre Italiens les affrontements sont très violents, quoi.
Et vous le montrez bien dans votre livre, justement, avec le voyage que vont faire nos deux héroïnes, Amelia et Rina, qui vont, après 25 ans de séparation, revoir leurs vieux parents, qui sont au bord de la mort. Mais elles vont être confrontées de manière extrêmement brutale, justement, à cette différence entre les deux pays.
Oui. Donc, elles apprennent par des voisins que leurs vieux parents qui n'ont jamais voulu venir, enfin, il y a eu une opposition familiale, qui n'ont jamais voulu émigrer et venir en France, sont dans une forme de misère de l'après-guerre, quoi. Mais bon, ce sont des gens âgés, donc c'est encore plus compliqué. Et Amelia et Rina, les deux héroïnes qui sont dans le sud-ouest, vont repartir en Italie pour les aider, quoi. Elles amènent le fils Matteo d'Amelia, et c'est donc quelques chapitres qui me permettent de dépeindre un petit peu cette Italie ravagée par et la guerre et la guerre civile. Voilà, donc qui me permet de montrer ces différences, parce que j'ai essayé tout le long du roman, à travers un ou deux personnages, d'avoir dans le roman, c'est ces Italiens qui sont en France, dans le sud-ouest. Mais qu'est-ce qui se passe au même époque en Italie?
C'est là que vous avez le parallèle, que vous introduisez un parallèle grâce au personnage de Lorenzo, qui est le fils
d'un aristocrate. Donc, dans le premier tome, le parallèle se fait.
Il n'est pas tellement pas si important que ça, on le voit à peine, mais dans le deuxième volume, on le voit
alors,
beaucoup plus.
Alors, en tout cas, dans le premier tome, cet homme aristocrate suit les fascistes et va monter dans les grades jusqu'à être assez proche des Quatrième-Vire. Voilà. Et en fait, donc ce n'est que quelques chapitres, mais ça me permet de raconter ce qui se passe en Italie, de parler des accords de Latran, de parler de la guerre d'Abyssinie, de parler des marais pontins. Voilà, pour mettre un peu un paysage de ce qui se passe en Italie au même moment. Et dans le deuxième tome, c'est un autre personnage qui va reprendre un peu ça, c'est Tommaso, qui était un intellectuel italien qui a fui le fascisme et qui est venu louer ses bras dans le Gers, dans les fermes du Gers. Et c'est d'ailleurs, bon, là je repars sur le roman, donc c'est là qu'il va rencontrer Amelia pour une histoire d'amour compliquée, parce que Amelia est catholique, fervente catholique, et Tommaso est un homme marié qui a laissé sa femme en Italie. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et Tommaso, dans le deuxième volume, va raconter un peu l'Italie d'après-guerre, au sens où on va parler de l'épuration qui n'a pas lieu de fait en Italie, quoi.
Vous dites que c'est effectivement un passage romanesque, et vous donnez la licence de l'écrivain.
Oui.
Vous êtes en fait extrêmement proche de beaucoup de réalités, parce que De nombreuses familles ont connu ce genre de
oui oui tout à fait
histoire c'est pas
oui oui j'espère oui quand je dis romanesque
c'est, on n'est pas dans des élucubrations ou des inventions
c'est du quotidien. Quand je dis romanesque, c'est parce que ce sont les personnages qui reprennent la main sur l'histoire, voilà, et que c'est en fait le roman, c'est ça c'est quand même le parcours de héros ou de héroïne, et là je retrouve vraiment cette affaire là quoi.
Oui. Après, ça vous permet aussi de vous raccorder à l'histoire de Toulouse, puisque le personnage de Tommaso est lié à Silvio Trentin. Et
oui, voilà. Donc là,
je fais des petits
clins d'œil, parce que Silvio Trentin donc est un ami de ce Tommaso, mais Silvio Trentin était un intellectuel, un prof de droit à Venise, qui fuit le fascisme. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que Silvio Trentin va acheter une ferme dans le Gers quand il arrive, sauf que c'est un prof de fac et c'est pas un paysan, et paysan c'est un métier aussi, et donc il va essayer pendant 2-3 ans, puis ça marche pas, donc c'est à Pavie dans le Gers, il est obligé de revendre cette ferme, il va travailler chez un imprimeur d'Auch, et puis après il va ouvrir cette librairie à Toulouse qui est au lieu de la résistance, ou en tout cas de la rencontre des résistants, qui était rue du Languedoc.
Donc ça c'est
voilà. Et après donc dans mon histoire, Silvio Trentin repart avec Tommaso en 43 pour aller continuer à se battre avec les alliés.
Alors un autre épisode qui a eu son importance, qui était pour les Italiens installés en France, mais c'était au départ un épisode typiquement français et qui a été très important, c'est la guerre d'Algérie et le choc de la guerre d'Algérie et l'arrivée des pieds noirs dans le Gers, qui vont changer aussi un certain nombre de... Ils vont changer un peu la donne pour nos paysans installés dans le Gers.
En fait, donc, le deuxième volume de la saga, c'est l'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, et comment cette famille italienne et les descendants, enfin les enfants, voire les petits-enfants, vont petit à petit s'intégrer complètement à la société française. Et pour montrer cette période d'après-guerre, qui est une période de reconstruction, en fait, j'ai pris trois éléments. J'ai pris le plan Marshall, puisque tous les pays d'Europe se reconstruisent quand même grâce à ça, aux aides américaines. Il y aurait beaucoup à dire dessus, mais enfin,
oui.
Bon, voilà. Je prends la création de la sécurité sociale, et notamment dans sa manière la plus pragmatique,
puisque j'essaie de
raconter comment ça s'est passé à Toulouse. Et puis, bien sûr, il y a la guerre d'Algérie. Alors, la famille Ricci, ma famille, n'est pas impactée directement par la guerre d'Algérie parce que les enfants sont trop âgés. Ils sont maintenant naturalisés français,
mais ils sont trop âgés
pour être rappelés dans le contingent. Par contre, le fait que les rapatriés viennent et vont vouloir acquérir des terres, ils rentrent en concurrence avec la famille pour justement l'acquisition des terres. Et c'est à travers ça essentiellement, et à travers aussi la petite fille Clara, qui elle, dont sera la première à aller avoir le bac, à aller à l'université, est une pacifiste et contre la guerre d'Algérie, et peut-être trop proche du FLN, qui peut amener quelques soucis à la famille.
Mais effectivement, vous montrez aussi que quelque part il y a eu une forme d'émulation au niveau rural.
Oui, alors après.
Puisque les pieds noirs sont venus, certains pieds noirs se sont installés dans le Gers, avaient d'autres savoir-faire, et finalement, les Italiens avant avaient apporté également leur savoir-faire, les coopératives.
Chaque migration apporte quelque chose. Donc les Italiens, c'était des méthodes d'ensilage, c'était de labourer avec des chevaux, c'était des nouvelles charrues, c'était les courgettes, je crois. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses des types de maïs qu'ils ont acclimatés, qu'on n'utilisait pas habituellement. Et côté des rapatriés d'Algérie, typiquement, alors là, c'est pas l'exemple du Gers, mais dans le Tarn-et-Garonne, sur toutes les fruitiers, il y avait des savoir-faire, des méthodes de techniques autres, et qui étaient quand même en avance par rapport aux pratiques de ce qui se passait dans les fermes locales.
Alors, nos Italiens de cette brave famille Ricci, ils ont quand même gardé leur fierté et leur esprit italien, Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter Clardo Bazzotti, le Rital, qui est votre deuxième choix.
Et qui est un hymne de beaucoup d'Italiens aujourd'hui. Enfin, voilà. En tout cas, c'est une chanson qui les a beaucoup touchés.
Oui, qui reste très très ancrée dans le cœur des Italiens.
À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Arrive, Girona. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau.
Parole d'auteur.
Alain Monnier, vous nous parlez aujourd'hui de vos livres consacrés à l'immigration italienne, d'autres terres que les nôtres et d'autres espérances, de volumes donc, édités chez Privat. Et donc on a évoqué le contexte historique, le contexte social aussi. Je voulais juste dire quelques mots, voir avec vous le contexte plus personnel, un petit peu de personnel et social en fait, de vos héroïnes particulièrement. Ce qui est particulier, ce que j'ai trouvé très très finement indiqué dans vos livres, c'est le rôle de la femme et la manière dont il a évolué à travers ces années cruciales, et évolué à la fois au niveau général et au niveau des mentalités et de personnel.
Oui, tout à fait. Et effectivement, sur la saga, c'est donc, comme on disait tout à l'heure, Amélia et Rina, les héroïnes, mais derrière, il y a les filles. Et les filles, finalement, il y a Louisa qui va devenir institutrice, il y a la petite fille Clara, on disait qu'il y avait le bac, mais il y a Gina, la fille de Rina, qui, elle, ne veut pas être une esclave de la terre parce qu'elle a vu la vie de sa mère. Mmh. Et donc, elle va s'embaucher dans des ateliers de la région pour finir par ouvrir un petit commerce d'électronique ménager dans le Lot, et toutes ces filles finalement poursuivent un petit peu et réalisent les ambitions des mères, et c'est pour ça que le livre s'appelle D'autres espérances, parce que c'est beaucoup à travers les femmes que petit à petit toute la famille s'intègre dans la société française.
Et c'est intéressant de voir aussi justement comment les sociétés françaises et italiennes ne sont pas si différentes, on l'a vu, mais elles sont quand même un petit peu. Et par exemple, il y a un moment où Matteo, le fils d'Amélia, rencontre Denise, une Française. Les mariages mixtes vont se faire.
C'est le premier de la famille qui,
voilà,
effectivement...
Et il lui paraît totalement normal à Denise d'aller dans un café
avec un
jeune homme, alors qu'en Italie, ce n'est pas possible.
Il y a ça, il y a aussi, en plus, Denise est communiste, elle sera
donc,
après,
elle
s'engage
rebelle,
dans la résistance,
oui,
dans la résistance pendant la guerre. Voilà, donc c'est quand même déjà une jeune femme française à la pointe un petit peu d'un système plus libéral, quoi.
À la pointe, et oui, et puis donc qui va aussi provoquer justement un petit peu sa belle-mère, par exemple. Donc, Amélia dit justement à Denise, tu es une fille bien, tu as l'impétuosité de la jeunesse et la combativité des hommes, mais tu es une femme. Et alors, lui dit Denise, tu devrais rester à ta place, être heureuse dans ton foyer, t'occuper de ta famille et laisser à d'autres le souci de changer le monde. Amélia, il faut que le monde change. Les femmes sont différentes des hommes, mais ne leur sont pas inférieures. Nous devons occuper la place que nous méritons. D'ailleurs, vous savez que j'ai raison. Amélia se tait. N'est-ce pas ce qu'elle désire pour Louisa ? Et donc, on voit là comment le personnage d'Amélia, qui au départ est totalement soumise à la hiérarchie, l'église, le patron, le mari, au service de tous... Elle finit par être presque plus...
Voilà, elle suit l'évolution de la société, et petit à petit...
Elle s'en affranchit pas mal,
peut-être
finalement.
Pas s'en affranchir, mais en tout cas, elle progresse avec le monde de l'après-guerre.
Elle devient quand même presque, vous le dites à un moment, presque plus autonome que sa sœur Rita.
Oui, voilà. Bon, après, ça, c'est le contexte du roman, parce qu'elle va aller vivre à Paris à un moment donné, alors que Rina reste là. Et le fait de côtoyer la ville et d'autres personnes, lui procure une ouverture d'esprit que Rina, qui reste dans le Gers, n'a pas forcément. Et Rina s'en rend compte. Voilà. Et donc, Rina, qui a toujours mené un petit peu, qui était un peu la rebelle, d'un coup se rend compte, que c'est sa sœur qui reprend ce rôle-là.
Alors, ce que c'est aussi un point que j'ai trouvé particulièrement bien vu, c'est justement la manière dont ces femmes, qui sont des fortes femmes, quoi, elles portent beaucoup, se débrouillent justement dans un monde qui ne leur est pas en apparence ouvert, mais comment elles travaillent en profondeur. Les hommes de la famille, et ça, c'est vrai que c'est un côté qui me paraît tout à fait juste sur la partie italienne.
Il y a une
manière d'être le ciment de la famille,
voilà, c'est elle qui
le garant de...
qui tiennent effectivement la famille, le ciment, comme vous dites. Alors, les hommes restent les hommes, c'est-à-dire... il y a le côté parade, on est sur la scène et puis on décide. Mais derrière, toutes les grandes décisions sont prises par ces femmes, quoi, et par la mère de famille qui, même sur l'aspect financier, un de mes amis m'avait raconté qu'à un moment donné, dans leur ferme, un soir, la mère sort les économies qu'ils avaient fait. Alors même le père est étonné d'avoir tout ça. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et elle lui dit, on achète une vache avec ça. Et l'homme dit, oui, mais si elle meurt... Non, non, on achète une vache. Et effectivement, ils ont bien fait parce que cette vache les a aidés. Enfin, voilà. Et c'est des décisions qui n'apparaissent pas sur le devant de la scène, mais qui sont souvent portées par les femmes.
Et qui sont vitales, finalement, et qui font,
comme vous disiez, que la famille fonctionne et que petit à petit, elle progresse.
Alors après, je voulais vous poser quelques petites questions d'ordre plus littéraire.
D'accord.
Le temps principal que vous utilisez est le présent. Dans les deux livres. Et comment ce choix vous est-il venu ? S'est-il imposé à vous ? Est-ce que c'est...
C'est plus dynamique. C'est-à-dire que l'action coule de source avec le présent. Quand vous partez sur le passé...
Il y a une distance qui se crée.
Il y a une petite distance qui se crée. Ça, c'est moins entraînant directement pour le lecteur. Alors, le passé a d'immenses vertus sur certains textes, un peu plus petits. Là, on est quand même dans une histoire qui se raconte. Ce qui prime quand même là-dessus, c'est la narration. Et c'est, après, j'ai toujours le souci aussi, mais ça depuis tous mes livres, que quand j'écris, je pense, je veux que le lecteur tourne la page. Voilà, ça c'est un peu mon obsession, à tel point même qu'il m'est souvent arrivé que j'avais 2-3 pages que je trouvais très bonnes, mais qui cassaient un peu le rythme et que j'ai fini toujours par enlever. Et donc, dans ce souci de garder le lecteur avec moi, le présent est un super outil.
D'accord. Donc, vous avez un peu devancé l'une des questions que j'allais vous poser. Non, c'est très bien. Donc, vous êtes plutôt à élaguer qu'à rajouter. Ou comment ça se passe dans votre travail ?
Souvent, c'est ça, oui. C'est-à-dire que c'est un peu comme en cuisine. C'est lier et réduire.
C'est ça.
Donc, comme beaucoup d'écrivains, je fais 7 ou 8 versions du livre. Chaque fois, c'est réduire un peu, c'est devenir de plus en plus efficace. C'est mieux écrit d'une version à l'autre, avec comme plus grande difficulté, c'est de savoir quand on s'arrête. C'est-à-dire que si je fais une version de plus, elle va être plus parfaite, entre guillemets, mieux écrite, etc., les phrases. Mais il viendra un moment où on va perdre l'énergie du premier jet.
Tout à fait.
Et donc, la balance, c'est de garder une énergie première et un style qui me va bien. Et que le style ne l'emporte pas non plus sur l'énergie. Enfin, voilà, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et à chaque livre, la question s'est reposée, quoi. Est-ce que je m'arrête là ou pas, quoi?
Comment finir ?
Comment arrêter d'écrire ?
Oui. Comment arrêter, oui. On a un peu le même problème en peinture.
D'accord.
Quand est-ce que le tableau est terminé ? Parfois, c'est évident, puis parfois,
il faut
vraiment aller se promener, prendre un peu de distance et se dire non, c'est bon, j'arrête. Mais donc là, on a affaire à un narrateur omniscient qui nous situe déjà...
Oui, c'est le truc classique, un format classique.
Avec pas mal de place au dialogue quand même.
Oui.
Ce qui n'est pas toujours facile à gérer, les dialogues. Et aux pensées des personnages, on est beaucoup dans la pensée aussi des personnages qui ils sont en train d'évaluer ceci,
oui,
cela.
C'est l'avantage de la posture de l'auteur omniscient qui permet de se balader d'un personnage à l'autre.
Alors, avec un style très, très dépouillé, des phrases courtes, vous nous avez en partie expliqué un peu pourquoi... Récemment, le vocabulaire concret, ça, je pense que c'est aussi lié à votre sujet. C'est des paysans, ils ont les pieds dans la boue, ils gèrent...
Et le dialogue doit être cohérent
avec le
statut social des personnages, oui.
Alors, mais j'ai remarqué qu'il y avait très peu de particularisme. Vous n'avez pas tellement... ce qui est, je trouve pas mal là d'ailleurs hein. Vous n'avez pas fait de jeu sur les accents ou sur les dialectes, il n'y a pas
même quand des grands auteurs le font, je pense à Balzac, même je pense qu'il y a un passage de Proust où ils s'amusent à parler comme les paysans, tout ça, je trouve que ça passe pas.
Il y a un côté artificiel.
Je sais pas. Je sais que moi, lecteur, je n'y rentre pas. Je reste complètement extérieur au passage. Ça me, je vous dis, dans Balzac, c'était plusieurs fois flagrant. Je pense que dès lors qu'on sait que c'est un paysan qui parle et que on le fait pas parler comme dans un salon de Saint-Germain-des-Prés, je crois que le lecteur adapte assez facilement, quoi.
Oui. Est-ce que vous travaillez tous les jours d'un seul jet ou...
Tous les matins.
Avec une discipline
C'est même pas une discipline, c'est avec une envie. donc, en général, c'est de 7h le matin à midi. Et des fois, après l'après-midi, je ne suis pas trop capable. Des fois, un petit peu en fin d'après-midi pour des relectures, tout ça. Mais c'est bien 5h tous les jours, chaque jour. Mais je vous dis, ce n'est pas une discipline.
C'est un plaisir.
C'est un plaisir, surtout quand je suis dans un roman. Je me lève avec une facilité parce que je sais que je vais aborder cette scène ou qu'il faut que je refasse celle-là parce qu'elle n'était pas bien. Et ça me porte, quoi.
Est-ce qu'il y a un lieu qui vous convient particulièrement pour écrire? Ou c'est n'importe
non,
où?
Non, c'est chez moi, le bureau, la cuisine, voilà. Donc, pour écrire. Et après, par contre, quand on est dans des relectures, là, je peux le faire dans un café, dans le train, n'importe où. Voilà. Mais là, je suis sur la reprise, sur peaufiner des phrases. C'est un autre travail.
Alors, par ailleurs, est-ce que l'idée de deux livres a été la vôtre dès le départ? Ou... Oui. Est-ce que vous aviez prévu dès le départ que ça vous prendrait
En fait, je voulais donc faire
deux tomes.
Je voulais faire une saga sur trois générations à peu près, avec une histoire, la grande histoire très riche dans cette période. Donc c'était un livre assez long. Et en fait, c'est avec l'éditeur qui me dit, bon, pas plus de tant de signes par volume, parce qu'après, ça fait de trop gros volumes, c'est difficile à commercialiser. Et du coup, j'ai fait deux volumes. Mais quand j'ai fini le premier, j'ai enchaîné l'écriture du second dans la foulée, les recherches
étaient déjà faites.
Oui. Quoi.
D'accord. Et... au niveau stylistique, quelles sont vos sources d'inspiration?
D'inspiration, je ne sais pas trop. Enfin, les auteurs que j'aime beaucoup, mais je n'ai rien à voir avec leur style, c'est Proust d'un côté et Modiano aussi de l'autre. Donc, c'est l'opposé, puisque la phrase proustienne est très, très développée, pleine de circonvolutions, alors que Modiano, c'est très, très simple.
Peut-être êtes-vous entre les deux, un
non,
bon
non,
équilibre.
Mais Modiano, j'ai même essayé de le décortiquer en disant, mais comment avec... il m'est fait sujet, verbe, complément, ou des choses très, très simples, et il illumine le lecteur. Et je trouvais ça assez magique, donc je l'ai même décortiqué pour me dire, mais comment il fait, quoi.
On ne sait pas, ça c'est...
On ne sait pas, c'est la magie.
ça va être l'heure, malheureusement, de nous quitter. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi.
Et merci.
Et donc, il me reste à dire de vous dire merci.
Merci à vous.
Merci à Coraline. Et merci à nos auditeurs qui peuvent retrouver cet entretien sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. Et à bientôt pour une prochaine émission.